Bonsoir, bienvenue pour donc cette dernière séance du cycle sur la prostitution de cette année. Alors comme vous l'avez constaté, j'ai pris beaucoup de retard sur le planning initial, j'ai été plus long que prévu sur la généalogie des termes du débat contemporain sur la prostitution, hein, réglementarisme, abolitionnisme, tout ça. Ça a décalé les séances suivantes, donc je vous prie de m'en excuser. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été déçues de ne pas entendre le thème initialement annoncé, je le regrette. Voilà. Bon. Pour cette dernière séance, je vais poursuivre ce qui a été entamé la semaine dernière, à savoir l'examen d'analyse de la prostitution qui n'aboutit pas à sa condamnation définitive, mais qui tente plutôt à en donner une représentation plus favorable et qui surtout ne débouche pas donc sur un rejet de cette activité. Ça va m'amener à présenter une nouvelle fois des réflexions qui proviennent d'auteurs féministes, principalement étrangères, mais également des analyses de juristes et de philosophes français. Alors j'avais initialement prévu de donner plus de place à des perspectives sociologiques, mais bon, voilà, du fait de ce décalage et que j'ai été trop bavard sur les premières séances, je pourrais seulement les signaler, peut-être en renvoyant à l'année prochaine si je poursuis sur ce thème-là, mais c'est sous toute réserve. Et puis, une dernière chose s'agissant du cours, vous trouverez sur le site de l'Unipop la bibliographie du cours, avec les références des textes que j'ai évoqués au fil donc des quatre séances. Et lorsque c'était possible, c'était pas toujours possible, mais j'ai indiqué des liens pour accéder à des textes en anglais que j'ai traités, qui sont évidemment un peu plus difficiles à trouver dans les bibliothèques françaises. Alors, la première auteure que je vais évoquer ce soir, c'est une anthropologue italienne qui s'appelle Paola Tabet, T-A-B-E-T. C'est une anthropologue africaniste qui a notamment travaillé sur le Niger, mais qui s'inscrit dans la tradition de l'anthropologie structurale, où il ne s'agit pas tant de travailler en profondeur sur une société précise que de solliciter la littérature anthropologique pour opérer des comparaisons entre un grand nombre de sociétés, parfois très éloignées, très différentes les unes des autres, mais les comparer pour faire surgir des points communs, des processus récurrents qui peuvent éventuellement relever de ce que Lévi-Strauss appelait les invariants structurels, c'est-à-dire, comme chez Lévi-Strauss que j'avais évoqué, la prohibition de l'inceste, quelque chose qui, sous des formes très différentes, se retrouve dans toutes les sociétés. Alors, dans cette perspective-là, dans cette démarche anthropologique-là, il s'agit plus généralement d'identifier des logiques générales qui transcendent les différences entre les cultures. Alors, Paola Tabet, c'est quelqu'un qui a travaillé notamment sur les outils et les armes, en montrant comment la maîtrise par les hommes des outils techniques, c'est un trait récurrent parmi multiplicité de sociétés, et c'est un trait qui fonde leur domination sur les femmes. C'est-à-dire que les femmes étant exclues de l'usage et de la maîtrise des outils complexes et des savoirs techniques qui vont avec, sont handicapées, sont d'emblée posées dans une situation d'inégalité par rapport aux hommes. Et cette logique technique, je dirais, est aussi un des terrains, des domaines où s'exprime la domination masculine. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur l'injonction faites aux femmes à la maternité, c'est-à-dire comment socialement les femmes sont construites comme devant être des mères et comment leur sexualité est dirigée vers l'hétérosexualité pour les amener à une maternité qui est en fait contrôlée et mise au service des hommes, par exemple dans des stratégies économiques ou d'alliance avec d'autres groupes. Alors, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est un article de Paola Tabet qui est intitulé « Du don au tarif » qui a été publié dans les temps modernes en 1987, et puis qu'elle a ensuite remanié et complété dans le cadre d'un livre qui s'appelle « La grande arnaque », qui a été publié en 2004 aux éditions L'Harmattan. Alors, l'objet principal de sa réflexion, c'est pas la prostitution, mais c'est ce qu'elle appelle les relations sexuelles, plus spécifiquement hétérosexuelles, relations sexuelles impliquant une compensation. Parce qu'elle estime que le terme de prostitution, il est trop réducteur, qu'il désigne effectivement un type particulier d'échange de sexualité contre autre chose, mais que, ce faisant, il masque aussi une grande diversité d'autres pratiques qui s'inscrivent dans son voisinage, mais qui gagnent à être envisagées au moyen d'un cadre d'analyse commun, mais qui soit aussi plus large. Donc la prostitution ne serait qu'une forme particulière de ces échanges de formes de sexualité contre compensation. Et donc pour ça, ben, en bonne anthropologue, elle va mobiliser des données qui sont relatives à une grande diversité de sociétés, alors principalement d'Océanie et d'Afrique. Alors elle constate tout d'abord que le fait pour un homme de payer ou d'accorder des biens matériels à une femme pour obtenir ses faveurs, c'est pas une rareté. Hein. C'est plutôt le contraire. Dans une multiplicité de sociétés, différents types de relations, incluant la sexualité, hein, et hétérosexualité, supposent ou exigent que l'homme verse une forme de compensation à la femme. Alors un premier constat, c'est que ce versement d'une compensation, c'est pas nécessairement ça fait pas scandale de la plupart des sociétés. Hein. C'est pas une déviance, c'est pas quelque chose de regrettable, de condamnable, comme l'est la prostitution dans notre société. Hein, c'est une pratique, à l'inverse, convenue, une manière honorable de se conduire, par exemple, lorsque un jeune homme fait la cour à une jeune femme, ou bien dans des cas de mariage qui impliquent le versement d'un prix de la mariée, par exemple. Il y a un certain nombre de sociétés où ça se fait. Alors, c'est des choses qu'elle repère dans une multiplicité de sociétés, hein, entre guillemets, sociétés primitives que l'anthropologie dans son époque n'était pas totalement dépourvue de racisme désigné comme tel. C'est aussi des choses qui sont assez familières, hein, c'est-à-dire on s'attend à ce que dans notre société, le type qui invite une femme au restaurant pour la séduire, c'est lui qui paye l'addition. Hein. Et puis l'amoureux aussi fait des cadeaux à sa petite amie et ses échanges, ils sont là pour construire la relation amoureuse. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui est spécifique à un certain type de société qui serait étranger à la nôtre. Et là je renvoie à une sociologue américaine qui s'appelle Viviana Zelizer, Z-E-L-I-Z-E-R, alors qui montre dans un livre qui n'a pas été traduit en français qui s'appelle The Purchase of Intimacy, alors je sais pas, on pourrait peut-être traduire ça comme le commerce de l'intimité, j'ai pas la bonne expression qui me vient en tête pour une traduction, mais elle montre que nos sociétés supposent aussi que, nos sociétés supposent que la logique de l'intérêt reste à la porte des relations intimes, mais en fait c'est une fiction, une représentation mensongère que nos sociétés se donnent d'elles-mêmes. Le monde de l'intimité, celui du couple ou de la famille, il implique aussi des formes d'échanges matériels, mais qui sont déniées ou euphémisées. Hein. Alors parfois, notamment dans une logique de domination, quand on pense au travail domestique, par exemple. Alors, cette revue de situation de différentes sociétés permet à Paola Tabet de déboucher sur un deuxième constat, c'est que ces relations, toutes différentes qu'elles soient, sont univoques. Hein, c'est-à-dire que c'est l'homme qui opère une dépense sous forme d'argent ou de cadeau pour bénéficier des faveurs de la femme. Mais ça ne se joue pas dans l'autre sens. Et puis elle opère un troisième constat, qui est que ces relations donc ont pour point commun d'aller toujours dans le même sens, mais elles sont variables dans leur contenu et leur durée. Alors certaines relèvent effectivement de ce qu'on appelle chez nous prostitution, c'est-à-dire le versement d'une somme d'argent qui est donnée pour une prestation uniquement sexuelle, avec éventuellement un tarif différent sur la prestation, et pour quelque chose d'une durée courte. Mais d'autres types de relations sexuelles contre compensation comprennent d'autres prestations en plus de la sexualité. Hein. Alors par exemple, tenir compagnie avec une conversation intelligente et brillante. On peut penser aux geisha, par exemple, au Japon. C'est pas simplement, et c'est même pas principalement un service sexuel, c'est aussi savoir tenir compagnie et que l'homme se sente en situation confortable. Ça peut être aussi préparer les repas, préparer le bain, assurer l'entretien de la maison, etc. Hein. Alors là, c'est pas la prostituée, mais ça peut être au choix la concubine, la maîtresse, ou comme dans les maisons bourgeoises du 19e siècle, ça peut être la domestique, quoi, qui en plus de faire le ménage et de préparer la nourriture, rend quelques services sexuels au maître de maison. Alors, ces relations donc sont variables en nature, aussi en durée, hein, de quelques minutes, on pense à la prestation prostitutionnelle, à toute une vie, lorsqu'il y a un achat d'une mariée, en passant par quelques jours ou quelques mois. Hein. Ce sont aussi des relations qui peuvent varier au cours de la vie d'une même femme. Hein, et notamment, Tabet évoque le cas du Niger, dans certaines villes, des femmes qui ont été mariées, mais qui le mariage a pris fin suite à la mort du mari, un divorce, etc. Ces femmes changent de catégorie, elles deviennent ce qu'on appelle des femmes libres, qui peuvent, sans que ça fasse spécialement scandale, recevoir des hommes qui les entretiennent. Hein, et elles ne sont pas pour autant ostracisées. Et voilà, elles peuvent, certaines, avoir plusieurs hommes qui les entretiennent en même temps. Bon, et pour en échange de cet entretien, pour de la sexualité, mais aussi des services domestiques. Puis Paola Tabet sollicite aussi des exemples historiques, et notamment une auteure que j'avais évoquée lors de la première séance, qui est Judith Valkovitz, hein, qui a travaillé sur l'Angleterre victorienne, où je l'avais aussi évoqué, des jeunes femmes de milieux populaires pouvaient avoir des relations prostitutionnelles pendant leur jeunesse, et puis se mettre en couple durable. Mais si ce couple se sépare et puis que les ressources économiques se font rares, elles peuvent à nouveau, ces jeunes femmes, avoir des partenaires payants. Donc au fil d'une même existence, on peut avoir différentes situations. Et par exemple, dans le livre de Judith Valkovitz, il y a une jeune Anglaise à qui la police demandait si elle était prostituée et qui avait répondu que pour l'instant, son seul client était son mari. Donc à ses yeux, non, c'est intéressant comme réponse, c'est-à-dire qu'aux yeux de cette personne-là, il y avait simplement une variation, une modulation entre mariage et prostitution, mais il n'y avait pas une opposition radicale. Donc on peut avoir dans différentes sociétés des prostituées au sens où on l'entend chez nous, hein, avec plusieurs clients qui payent pour un service uniquement sexuel, mais aussi des femmes avec plusieurs amants stables qui l'entretiennent en même temps. On peut avoir aussi une autre modulation, ce que j'avais évoqué la semaine dernière au travers des travaux d'Elisabeth Bernstein, c'est la girlfriend experience des escortes américaines, où c'est pas seulement une prestation sexuelle, mais c'est la mise en scène, alors plus ou moins cynique, d'une relation véritablement affective, où donc la femme se comporte avec l'homme qui la paye, comme si c'était son petit ami, donc sur le modèle d'une authenticité limitée, hein, on joue à une relation amoureuse pour un temps donné et contre versement. Et puis on a le cas de la femme qui est attachée à un seul homme, à qui elle fournit de la sexualité, l'entretien du ménage, et à l'égard duquel elle se montre attentionnée, alors parfois sous les formes d'une relation sincèrement amoureuse, comme dans le cas du mariage bourgeois qui est chez nous devenu la norme, mais de manière assez récente. Hein, c'est pas si vieux. Alors de cette revue de situation contrastée, Paola Tabet tire deux conclusions principales. La première conclusion, elle découle de ce constat donc que l'échange se fait toujours dans le même sens, de l'homme vers la femme. Et elle y décèle un phénomène important, à savoir que la sexualité des femmes, dans ces cas-là, elle devient une sexualité de service. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement le fait que dans ce type de transaction, la sexualité des femmes n'est pas guidée par la recherche du plaisir, mais par des avantages matériels. Donc la sexualité n'est plus conçue comme un échange de plaisir entre partenaires égaux, mais comme un service rendu par la femme à l'homme qui, lui, en paye le prix. Et de fait, la gratification des services sexuels, c'est, selon Tabet, et avec la violence, l'instrument d'un asservissement de la sexualité des femmes, de son éviction du domaine érotique pour entrer dans le domaine de l'intérêt. Alors, je la cite, « À travers le don, alors ici c'est entendre au sens de rétribution, à travers le don et par son truchement, la sexualité féminine est déclarée et rendue différente de la masculine. L'acte sexuel féminin est nié en tant qu'expression équivalente de sexualité propre, autonome, à égalité de droit. En s'échangeant contre autre chose qu'elle-même, la sexualité devient ou tend à devenir un service et pour finir une marchandise. » Donc ça c'est une étape importante de la réflexion de Paola Tabet, mais qui est souvent ignorée ou sous-estimée par ceux et celles qui veulent en faire une défenseur du travail du sexe. Elle démontre et elle reconnaît que la prostitution, et avec elle toutes les autres formes de sexualité contre compensation, relèvent de la domination masculine. Ce sont des pratiques qui relèvent d'un asservissement du corps des femmes et de leur exclusion de la sexualité égalitaire et guidée par le plaisir. Alors, ce que les défenseurs du travail du sexe vont surtout retenir de la démonstration de Tabet, c'est le fait que dans cette logique d'asservissement du corps des femmes pour la satisfaction sexuelle des hommes, le mariage et la prostitution ne s'opposent pas, mais forment les deux pôles d'un même continuum, hein, avec des gradations intermédiaires selon le type de prestation fournie. Donc ce sont des prestations uniquement sexuelles ou qui impliquent d'autres services, donc l'entretien de la conversation, faire le ménage, faire les repas, etc. Et puis en fonction de leur durée, c'est-à-dire de quelques minutes à toute la vie. Alors évidemment, dans cette idée que propose Paola Tabet d'un continuum économico-sexuel, donc où il y aurait la prostitution à un côté et puis le mariage de l'autre, il y a une dimension provocatrice, à laquelle, je dirais, le succès de sa théorie n'est pas étranger. C'est pas quelque chose non plus d'entièrement nouveau, j'avais cité Engels et de Beauvoir qui, eux aussi, avaient rapproché la situation de la prostituée de celle de la femme mariée, et puis qui suggéraient que peut-être que la prostituée était dans une situation moins défavorable que la femme mariée, parce que une situation moins hypocrite. Puis au moins, elle gagnait des sous. Alors, la théorie de Paola Tabet, elle est plus subtile et plus élaborée que celle d'Engels et de Beauvoir, et elle ne se réduit pas à une assimilation de la prostitution au mariage. Elle prend bien en compte qu'il y a une différence entre les deux, et cette différence est principalement symbolique. La femme mariée, elle est respectable, tandis que la prostituée fait scandale. Alors, il faut s'interroger sur pourquoi la prostituée fait scandale et pas la femme mariée. Alors, pour rendre compte de cette différence, elle a recours, une nouvelle fois, à la théorie de Lévi-Strauss sur la parenté, que j'ai déjà évoquée à propos de Gail Rubin la semaine dernière. Alors, chez Lévi-Strauss, je le rappelle, ce sont toujours les hommes qui s'échangent des femmes. Ce sont eux les sujets de l'échange, tandis que les femmes n'en sont que les objets. C'est très clair chez Lévi-Strauss. Alors, Paola Tabet, elle remet pas en cause ce constat, ou cette idée, en tout cas, mais elle signale que dans certaines situations, les femmes reprennent le contrôle de l'échange, par exemple, lorsque ce sont elles qui fixent le prix des prestations qu'elles ont à offrir. Et c'est précisément le cas, selon elle, dans la prostitution, où les femmes se posent en sujet d'une transaction dont elles fixent elles-mêmes les termes et les conditions. Alors, la sexualité, dans ce cadre-là, reste du domaine du service, mais elle relève, je cite Paola Tabet, d'un usage de la sexualité des femmes hors et à l'encontre des structures de l'échange des femmes. Donc, dans cette perspective, la prostitution, elle fait scandale, parce que les femmes y revendiquent une position de sujet dans l'échange, alors qu'elles devraient en être les objets. Et elles devraient rester, donc, soumise à la domination et rester silencieuse dans des affaires qui se règlent entre hommes. Donc ce qu'on ne pardonne pas aux femmes qui font profession de se prostituer, c'est de se poser en sujet, mais on ne pardonne pas non plus, la même chose aux autres femmes qui voudraient faire preuve d'indépendance dans le choix de leur partenaire et dans la gestion de leurs relations sexuelles et économiques avec les hommes. Et c'est parce qu'on ne leur pardonne pas ça, on ne leur pardonne pas d'être des sujets ou de prétendre être des sujets, qu'on les traite de prostituées et qu'on les traite comme des prostituées. Et donc le stigmate de la prostituée, il est là pour frapper toutes celles qui essayeraient de se soustraire à la domination masculine et pour dissuader celles qui seraient tentées de le faire. Et je cite une nouvelle fois Paola Tabet, « Si la prostitution apparaît comme un scandale, c'est justement parce qu'elle contrevient aux règles fondamentales sur quoi se fonde la famille, la reproduction, la circulation des femmes comme objet d'échange entre les groupes d'hommes. Elle fait scandale parce qu'elle menace les grands piliers qui soutiennent les rapports sociaux entre les sexes, et donc des rapports inégalitaires. » Et donc dans cette perspective, la prostitution, ça serait sinon une forme de révolte, en tout cas une forme de soustraction des femmes à la domination masculine, parce qu'elle relèverait, je cite une nouvelle fois du don au tarif, le texte de Tabet, elle relèverait d'une affirmation de soi par les femmes comme sujet de la sexualité, ou même comme sujet et non objet de la transaction économique, avec ce qu'une telle affirmation implique de rupture des règles sociales et de perte de cette respectabilité que promet au contraire la conformité à ces mêmes règles. Et elle continue en soulignant les aspects d'irrégularité, de transgression, d'hérésie ou de révolte sexuelle, bref, l'affirmation du droit à la sexualité, du droit à être des sujets et, entre autres, des sujets sexuels, hein, donc qui résideraient dans la prostitution. Alors, donc, c'est une réflexion décapante, hein, pour le moins, qui prend le contre-pied des féministes radicales, en posant les prostituées non comme des incarnations de la soumission au pouvoir sexuel des hommes, mais au contraire comme à même de se soustraire à cette domination en regagnant une forme d'autonomie sexuelle et économique. Mais, je le répète une nouvelle fois, parce que très souvent c'est oublié, ce gain d'autonomie, il opère malgré tout dans un contexte plus global d'asservissement de la sexualité féminine qui reste du domaine du service et donc qui reste en quelque sorte aliénée. Les femmes qui se font payer en contrôlant la transaction ne cherchent pas la sexualité pour elles-mêmes, mais elles en font un service qui ne vise pas en priorité le plaisir. Et donc, si émancipation des femmes par la prostitution peut y avoir, selon Paola Tabet, ça reste une émancipation partielle et qui ne remet pas en cause les rapports de genre dans leur fondement. Alors, j'y insiste parce que y a des lectures rapides qui retiennent surtout le continuum économico-sexuel, et puis qui font de Paola Tabet la pourfendeuse du mariage en disant que la prostitution c'est mieux. C'est pas ça son propos. Alors, il y a quelques difficultés dans la théorie de Paola Tabet. La première, c'est que même si on la suit, on est obligé de relativiser son propos en signalant les cas, et qui ne sont pas forcément marginaux, où les prostituées ne sont pas totalement sujets de la transaction. Hein, parce que et pour qui leur activité n'est pas une révolte ou une émancipation, parce qu'elles sont exploitées ou contraintes par des hommes. Hein. La théorie vaut pour les prostituées indépendantes, mais la prostitution, c'est une de ces activités où l'indépendance est loin d'être garantie. Elle peut être présente, mais c'est pas forcément le cas le plus courant. Deuxième difficulté, alors que Paola Tabet signale, hein, je l'ai dit, mais sans trop s'y arrêter, alors que je pense que c'est important, les situations de la femme mariée et de la prostituée peuvent être rapprochées sur le plan objectif, hein, par rapport aux logiques d'échange. Et sur le plan subjectif, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Hein. C'est quand même plus simple pour une femme mariée de se présenter comme telle que pour une prostituée de dire publiquement qu'elle exerce cette activité. Alors la femme mariée, elle est peut-être davantage objet d'un échange, mais au moins elle bénéficie du confort de l'honorabilité. Et sur ce point, sa situation est sans doute plus enviable que celle de la prostituée qui est peut-être sujet des transactions, mais c'est quand même un petit peu dur au quotidien de se poser en sujet. Et puis une troisième difficulté, c'est que cette analyse, elle éclaire les rapports entre hommes et femmes, au-delà de la seule prostitution, mais quid des rapports économico-sexuels entre hommes ou entre femmes. Hein, l'analyse éclaire les rapports hétérosexuels, mais ceux d'ordre homosexuel, on peut se demander s'ils sont foncièrement différents. Hein. Dans ces formes pratiques, la prostitution masculine, elle n'est pas foncièrement différente de celle des femmes. Alors que l'analyse de Paola Tabet semble suggérer une différence fondamentale, spécialement en regard des règles de l'échange. Mais bon, sur les trottoirs, la différence ne saute pas forcément aux yeux. Hein. Les modes d'exercice sont similaires, les pratiques sont proches, les clients sont parfois les mêmes. Bref, on a une analyse qui éclaire utilement une dimension du rapport social à la prostitution, les fondements de sa dimension scandaleuse, mais sans doute pas la totalité. Alors, je vais quand même continuer sur cette question de la dimension scandaleuse de la prostitution, en présentant les travaux d'une autre intellectuelle féministe, qui elle est plutôt psychosociologue de formation, qui est d'origine américaine mais naturalisée hollandaise et qui vit et qui travaille aujourd'hui en France, qui s'appelle Gail Faetherson. Alors, c'est quelqu'un chez qui l'engagement militant et la réflexion sont étroitement liés. Ça a été une des animatrices du Comité international pour les droits des prostituées dont j'avais parlé la semaine dernière, avec Margot St. James, donc je le rappelle, la fondatrice de l'association américaine Coyote. C'est elle qui a organisé les deux congrès d'Amsterdam et de Bruxelles de ce comité international pour les droits des prostituées. Et puis c'est elle qui a dirigé l'ouvrage qui est issu de ces congrès, qui s'appelle, qui n'a pas été traduit non plus, qui s'appelle « Vindication for the Rights of War », donc une défense des droits des prostituées, qui a un titre qui paraphrase un des textes les plus célèbres du féminisme de langue anglaise. Et d'ailleurs, dans ce livre, dirigé par Fetterson, on trouve un texte de Paola Tabet. Dire que leurs approches sont assez proches. Alors, Gayle Fetterson, c'est une intellectuelle féministe et elle s'est à un moment intéressée au clivage qui sépare les femmes, qui divise le mouvement des femmes et qui les empêche de participer à une lutte commune pour leur émancipation. Alors, elle s'est intéressée aux groupes de prise de conscience, qui sont un des instruments classiques du féminisme, mais avec des dispositifs spécifiques qui rassemblaient alors soit des femmes hétérosexuelles et lesbiennes, soit des femmes blanches et noires, soit des juives et goyes, en veillant à chaque fois à ce que les femmes, entre guillemets, normales ou en position dominante, soient minoritaires dans ces groupes, pour que elles puissent réaliser en pratique qu'est-ce que c'est que d'être minoritaire, que de pas donner le la des normes du groupe. Hein. Et pour, en partageant un petit peu de cette expérience de la domination, de la discrimination, de la minorité, d'être davantage en mesure de surmonter des stéréotypes racistes, homophobes, etc. Dans la continuité de ce travail, Gayle Fetterson, donc, elle a mené une réflexion sur ce qu'elle a appelé le stigmate de la pute, ou le stigmate de la prostituée. Donc, une nouvelle fois, un trait qui est supposé disqualifier certaines femmes et les empêcher de se joindre à une lutte féministe plus vaste. Alors, ce sont des analyses... Pardon. C'est des analyses qu'elle a publiées dans plusieurs textes, mais dont on trouve la version la plus élaborée dans un livre qui s'appelle « Le prisme de la prostitution ». Alors moi, j'ai l'édition anglaise, qui a été publiée avant, évidemment. Alors, le terme de stigmate de la prostituée, évidemment, c'est un terme qui est repris d'Irving Goffman, sociologue américain, où ce terme désigne un trait d'une personne qui est susceptible de la disqualifier et qui l'expose à être traité différemment et souvent moins favorablement que ceux qui sont considérés comme, entre guillemets, normaux. Alors, elle va s'appuyer sur de nombreux entretiens avec des prostituées pour d'abord se livrer à un passage en revue des multiples traits qui fondent dans les représentations à la fois de sens commun, mais aussi dans certaines représentations scientifiques, qui fondent l'indignité des prostituées, qui fondent leur disqualification sociale. Et donc elle va confronter ces idées reçues à ce que disent les prostituées de leur pratique et de leurs conditions, et donc évidemment ça débouche sur une vigoureuse critique de ces stéréotypes, alors qu'ils par exemple voient en elles des créatures immorales, impures, vicieuses, déshonorées, ou encore des personnalités psychologiquement immatures, aliénées, irresponsables, nécessairement assujetties à un pouvoir masculin. Donc elle montre que non, les prostituées ne sont pas toutes des nymphomanes, non, elles n'ont pas toutes une sexualité pervertie par des traumatismes subis dans l'enfance, non, elles ne se livrent pas indistinctement à tous les hommes, mais elles sélectionnent leurs clients, elles sélectionnent aussi les pratiques qu'elles offrent sur le marché, et puis celles qu'elles réservent à leur sexualité privée, et puis elles ne sont pas toutes nécessairement exploitées et contraintes par un macro, mais beaucoup d'entre elles sont indépendantes, et elles contrôlent les relations qu'elles ont avec des amants, des amantes avec qui elles ont des relations extra-professionnelles. Bref, les arguments sur lesquels se fonde le sens commun pour affirmer l'indignité des prostituées n'ont pas de valeur. Mais surtout, elle montre que ce stigmate de la prostituée n'affecte pas que celle qui exerce effectivement la prostitution, mais qu'il vise l'ensemble des femmes dont le comportement, spécialement dans le domaine sexuel, transgresse les normes de genre. C'est-à-dire que sont exposées à ce stigmate, pas seulement au stigmate, mais aussi à différentes exactions ou violences, différents types de femmes, différents comportements de femmes, celles qui circulent seules le soir, qui refusent de se plier à une stricte monogamie hétérosexuelle, celles qui sont économiquement ou sexuellement indépendantes, qui prennent des initiatives auprès des hommes pour les séduire, qui ont des compétences en matière sexuelle, qui appartiennent aussi à certains groupes sociaux ou certains groupes ethniques, etc. Donc ce sont un certain nombre de conduites, et notamment dans la sphère sexuelle, des femmes qui les exposent au stigmate de la prostituée. En termes plus ordinaires, à se faire traiter de pute. Et donc, bah, il y a un ensemble de comportements qui exposent, même si la femme n'est pas une prostituée, qui l'expose à être considérée comme telle. Donc pour Feterson, le stigmate de la prostituée ne concerne pas que les femmes qui exercent effectivement cette activité, mais il menace toutes celles qui se risquent à une sexualité indépendante, qu'elles définissent et contrôlent elles-mêmes, et qui de ce fait échappent au contrôle des hommes. En d'autres termes, toute femme qui tente d'échapper à la domination masculine dans le domaine sexuel, mais pas seulement, s'expose à se faire traiter de pute, ce qui est un stigmate assez dissuasif. Alors, je précise dans le domaine sexuel, mais pas seulement, parce que une femme ambitieuse et qui réussit, par exemple, professionnellement, se verra suspecte assez rapidement d'avoir usé de ses charmes pour y parvenir. On dira qu'elle doit son avancement non pas à ses compétences, mais à une promotion canapé, etc. Hein, ce qu'on dit jamais quand c'est un homme qui est promu, alors même que ses compétences ne sont pas nécessairement avérées. Donc, sur ce point, Feterson rejoint les analyses de Paola Tabet en soulignant donc combien ce stigmate opère comme un instrument de contrôle des femmes et de leur sexualité au service de la domination masculine, puisqu'il pèse comme une menace sur celles qui tenteraient de s'en affranchir. Alors, l'enjeu, à l'inverse, hein, ça serait de déstigmatiser la prostitution, d'en faire une activité professionnelle comme les autres, de la légitimer pour qu'on en soit fier et pour qu'il ne soit plus possible d'user de son indignité pour opprimer les femmes, puisque de toute façon cette indignité repose sur rien. Et cette lutte pour la dignité des prostituées, pour la reconnaissance de leur activité, c'est une lutte qui concerne les prostituées, mais aussi les femmes dans leur ensemble, qui ont tout à gagner à ce qu'on ne puisse plus les intimider dans leur recherche d'autonomie en les traitant de putes. Alors, c'est une analyse que je trouve assez éclairante sur une des manières dont opère le contrôle du corps et de la sexualité des femmes, avec notamment tout ce que ça suggère hein, sur les prescriptions vestimentaires, sur les prescriptions sur la circulation des femmes dans l'espace public. Hein, un ensemble de choses qui sont connues, qui contribuent à contrôler le corps, l'apparence et la conduite des femmes. Question de se retrouver en mini-jupe le soir dans certains quartiers, comme quoi ça afficherait une disponibilité sexuelle, ne se pose pas dans les mêmes termes pour les hommes. Hein, on le sait bien. Donc là, il y a bien quelque chose de spécifique qui participe de la domination masculine. Donc c'est assez éclairant sur ce point-là. En revanche, et comme dans d'autres analyses que j'ai évoquées précédemment, la prostitution, pour Feterson, c'est un prisme, comme le dit le titre du bouquin. Hein. C'est un prisme qui éclaire la condition de l'ensemble des femmes, mais en négligeant, d'une certaine manière, la situation propre des prostituées. Hein. C'est un point de vue, les prostituées, à partir duquel étudier la condition féminine dans son ensemble, mais elles ne sont pas prises en compte par ce point de vue, ou très peu. Et notamment, je trouve assez problématique de traiter des conduites sexuelles très différentes comme équivalentes. Hein, la femme qui, on va dire, avec un fort tempérament, qui enchaîne les amants parce qu'elle aime le sexe, elle se fera peut-être traiter de pute, de salope, de ce que vous voulez, mais elle n'a pas le même rapport à la sexualité que la prostituée qui enchaîne les clients sans ressentir le moindre plaisir érotique. Hein. Alors, Paola Tabet, mais aussi O'Connell Davidson ou Carol Patman sont plus attentives justement à la spécificité du type de sexualité qui s'échange dans la prostitution. Voilà. Alors, j'ai fini avec le passage en revue des principales auteurs intellectuels féministes étrangères, c'est pas une condition du regroupement, mais il se trouve que les analyses les plus intéressantes, ont été produites à l'étranger. Je vais passer à un autre registre de discours qui, lui aussi, refuse de condamner la prostitution, mais avec des points d'appui intellectuels différents, qui ne relèvent pas de la réflexion féministe, mais qui relèvent plutôt du droit ou de la philosophie morale. Et là, ça va être des auteurs prioritairement français ou francophones que je vais convoquer. Alors, il s'agit de réflexions donc qui vont s'inscrire davantage dans un registre normatif, en entendant prioritairement réfuter les positions comme celles des féministes radicales ou abolitionnistes qui avancent que la prostitution, on l'a vu, ça serait un mal en soi qui devrait être éradiqué. Et donc, première catégorie, parmi eux, des spécialistes en philosophie morale, donc des gens qui s'intéressent spécialement aux conceptions du bien et du mal qui régissent la vie en société. Alors, le premier que je vais citer, c'est Patrick Farro, P-H-A-R-O, qui a publié l'année dernière un livre qui s'appelle « Ethica Erotica », sous-titré « Mariage et prostitution ». Et donc c'est une réflexion sur les normes qui encadrent ou qui devraient encadrer la vie érotique. Alors il traite dans le livre du mariage, du libertinage, de l'adultère, de la chasteté et donc aussi de la prostitution. Moi je vais me centrer sur ce qu'il dit de la prostitution. Hein, je vais essayer de côté les autres formes de vie érotique. Alors, il avance à propos de la prostitution que son ancienne condamnation comme promiscuité sexuelle, extra-conjugale et éventuellement dénuée d'affect, aujourd'hui ne peut pas fonder une disqualification de la prostitution parce que ce type de comportement, il est relativement généralisé, il est normalisé. Hein. Argument plus original, il avance aussi que la prostitution ne peut pas être condamnée parce qu'elle n'est pas en tant que telle nuisible à celles et ceux qui la pratiquent. Hein. Alors, il dit qu'en soi, la prostitution, elle n'est pas problématique, elle n'est pas mauvaise pour la santé ou pour la psyché. Hein. Ce qui peut la rendre dangereuse, ce sont les conditions dans lesquelles elle est exercée. Hein. S'il y a contrainte par la violence, s'il y a une précarité telle que la personne... c'est pas possible d'imposer des préservatifs. Là, ça peut devenir... dangereux pour la personne, mais en tant que telle, cette pratique ne serait pas nuisible. Il avance aussi un autre argument, c'est que l'association du sexe avec la gratuité, pour lui, ça a rien d'évident. Hein. On dit la prostitution, c'est mal parce que c'est introduire la logique de l'intérêt dans la sphère de la sexualité. La sexualité devrait être gratuite. Il dit, c'est pas si évident que ça parce que même au-delà de la prostitution, dans des relations intimes très ordinaires, il y a aussi du calcul, de l'intérêt qui se mesure pas forcément en espèces, mais nos relations affectives sont extrêmement complexes, elles sont aussi très très ambiguës, cette idée de gratuité ne va pas de soi. Hein. Et d'une certaine manière, il retrouve ce que je disais à propos de Viviana Zelizer qui dit nos sociétés prétendent que l'intimité n'a rien à voir avec l'intérêt, et en fait, si on y regarde bien, nos relations intimes sont tramées par l'intérêt. Hein. Cette dimension marchande de la prostitution, elle n'est pas plus problématique que la dimension gratuite hein, dans la sphère de la sexualité. Et en fait, il s'agit surtout d'affaires d'appréciation. Chacun, chacune doit pouvoir se décider pour la marchandisation ou la gratuité comme il veut, mais on ne peut pas établir un principe universel là-dessus, hein, ce que prétendent faire, à l'inverse, les féministes radicales. Et puis, il y a un dernier point sur lequel il insiste, c'est ce qu'il appelle la dimension altruiste de la prostitution. C'est-à-dire que dans cette activité, selon lui, il y a un souci pour autrui, qui est fondamental, puisque ça consiste à apporter à un autre une forme de bien, une forme de satisfaction. Donc il y a une valeur éthique dans la prostitution. Parce que ça consiste, de la part de la personne qui l'exerce, à se soucier du plaisir, du confort, de la satisfaction d'un autre, plutôt que de viser son bien à soi sur un registre égoïste. D'où son insistance dans son livre sur les compétences qui sont à la fois sexuelles et relationnelles des, entre guillemets, bonnes prostituées, celles qui savent fournir des prestations satisfaisantes à leurs clients, qui savent créer une bonne ambiance, qui savent être accueillantes, attentives, alors parce qu'elles aiment le travail bien fait sans doute, mais aussi parce que un client satisfait sera davantage disposé à revenir. Et donc il va parler d'un art du trottoir en insistant sur le fait que ce sont des compétences difficiles à acquérir, donc qui doivent être reconnues et être rémunérées à leur juste valeur. Hein. Mais il plaide aussi pour l'utilité sociale de cette activité, pour les isolés, les timides, et aussi bien sûr pour les handicapés, avec une référence sur le débat très contemporain sur l'assistance sexuelle. Alors, il y a des choses intéressantes dans ce propos, alors, spécialement dans cette insistance sur les compétences, parce que ça rejoint un texte de Paola Tabet, un autre texte hein, plus récent, où elle reprend un argument important de la critique féministe sur le fait que beaucoup des tâches qui sont définies comme spécifiquement féminines sont considérées comme la simple expression d'une nature féminine. Hein, par exemple, le soin aux enfants. Hein, les femmes sont naturellement, entre guillemets, douées pour s'en charger, parce que bah, c'est elles qui accouchent, donc c'est comme un prolongement naturel, un prolongement logique de leurs caractéristiques physiologiques. Alors, comme ces compétences sont posées comme innées, bah, elles n'ont pas d'effort à faire. Hein, elles sont déjà équipées de ces compétences, elles n'ont pas besoin de faire un apprentissage pour les acquérir. Donc il n'y a pas besoin de les payer plus. Hein, dans tous les métiers qui relèvent de voilà des compétences spécifiquement féminines, une nouvelle fois avec plein de guillemets hein, chez moi. Bon, s'occuper des enfants, des vieux, des malades, etc. Hein, donc c'est aussi un des arguments des faibles et de la non reconnaissance de ces compétences hein, comme telles. Alors bon, on peut aussi complexifier cette représentation évidemment éminemment sexiste par une touche de racisme et notamment quand moi je vais à Sciences Po donc boulevard Saint-Germain à Paris, je suis toujours frappé par le nombre de jeunes femmes noires qui promènent des enfants si ce n'est blonds, en tout cas blancs. Hein. Et bah les africaines sont naturellement plus portées aux soins, etc. Bon, vous voyez comment ce type de représentation entrecroise le sexisme et le racisme. Hein. Bon, ça a été aussi un des apports importants du féminisme, que faire reconnaître que les tâches assignées aux femmes, elles exigent un apprentissage qui est parfois long et pénible, et que ça suppose des compétences qui méritent d'être connues. Hein, et d'être rétribués à leur juste valeur. Ça a été des choses importantes donc, dans le combat féministe, notamment pour ce qui est de la visibilisation du travail domestique et de la prise en compte de la double journée des femmes. Alors, de ce point de vue, le type de sexualité que pratiquent les prostituées, il gagne aussi à être appréhendé en termes de compétences qui ne sont pas innées, mais qui sont acquises. Hein. La prostitution, ça ne se limite pas à écarter les jambes, ça exige des compétences qui sont acquises et qui ne sont pas naturelles. Hein, ça suppose de savoir sélectionner les clients dangereux ou pas, savoir négocier les termes de la passe, faire en sorte que le client il ait vite fini, mais qu'il soit quand même content, savoir un peu le motiver s'il n'est pas très en forme, etc. Hein, donc c'est bien un travail, une praxis au sens marxiste du terme, et ça a bien de la valeur puisque donc ça se paye sur un marché. Alors, la question de savoir si c'est un métier, ça c'est encore une question différente et une autre étape du débat. Alors, donc le Faro a le mérite de poser cette question-là, des compétences. Hein. Son bouquin pose quand même un certain nombre de difficultés. Alors, tout d'abord parce que sa base empirique, elle consiste surtout en témoignages de prostituées qui ont écrit des livres et dont on peut penser qu'elles ne sont pas totalement représentatives. Alors, effectivement, si on s'en tient aux situations les plus favorables, c'est une activité qui peut paraître positive, mais si ces situations favorables sont minoritaires, c'est peut-être pour des raisons qui mériteraient d'être étudiées. Et puis, le livre, il manque quelque chose d'important et qu'avait souligné Christine Overall, dont j'avais parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus. C'est quand même curieux que cet altruisme, il se retrouve dans une écrasante majorité des cas chez les femmes, et spécialement chez les femmes pauvres ou précaires. Hein, on a quand même quelque chose d'un peu curieux, on a l'humanité qui est divisée en parts à peu près égales entre hommes et femmes, et par un hasard totalement inexplicable, ce sont les femmes qui se montrent altruistes à l'égard des hommes. C'est quand même assez curieux. Alors, on n'est pas loin donc d'une nouvelle naturalisation qui reviendrait un petit peu qui serait partie par la porte et qui reviendrait par la fenêtre. Hein. Alors, certes, pour se prostituer, il faut acquérir des compétences, mais pourquoi les femmes seraient comme prédisposées à les acquérir et à les mettre en œuvre, et pourquoi beaucoup moins les hommes, hein, et notamment une certaine catégorie d'hommes qui, en l'occurrence homosexuels, qui seraient plus disposé à acquérir ses compétences, bon, au travers de la prostitution masculine. Donc, bon, on voit qu'il y a quand même une difficulté qui l'éclipse assez rapidement. Et puis, même son idée d'altruisme, elle est ambiguë. Alors, peut-être que dans la prostitution, il y a une attention pour autrui, hein, et ça autorise à la rapprocher de l'ensemble des métiers du Caire, hein, comme nounou, comme assistante de vie pour vieillards séniles ou pour handicapés, aide-soignante, etc. Mais qui sont justement des métiers effectivement majoritairement féminins, mais aussi, et comme par hasard, des métiers pénibles, sales, dévalorisés et mal payés. Hein. Et là, on retrouve la critique que Julia O'Connell Davidson avait exprimée en disant « Oui, la prostitution peut devenir un métier, mais qui ne sera pas plus motivant qu'assistante de vie ou aide-soignante ». En termes d'intérêt et de rétribution. Donc, à mon sens, une analyse qui finalement trouve d'importantes limites. Alors, je vais passer à un collègue de Patrick Farro, qui est un peu dans le même registre de la philosophie morale, qui s'appelle Ruven Ogien, donc un petit livre qui s'appelle « Le corps et l'argent ». Alors, une grande partie du bouquin est consacré un passage en revue des arguments couramment opposés à la prostitution. Bon, un peu à la manière, il retrouve beaucoup des arguments qui sont étudiés par Christine Overall et qu'elle critique elle aussi, donc je ne vais pas y revenir. Dans sa discussion, on va aussi retrouver quelqu'un que Carol Patman avait déjà sollicité, qui est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant qui condamne la prostitution parce que ça revient à traiter autrui comme un moyen d'avoir un plaisir sexuel, mais pas comme une fin. Donc ça veut dire qu'on dégrade son humanité, hein, en traitant cet autre comme une marchandise, comme un objet qu'on pourrait acheter sur le marché. Hein, c'est-à-dire, c'est pas l'humanité de l'autre qu'on vise dans la prostitution, c'est juste un moyen, un instrument d'accéder à un plaisir sexuel égoïste. Alors Ogien va répliquer de manière assez prévisible que la prostituée, elle ne se vend pas sur le marché, elle n'est pas réduite à l'état de marchandise, mais elle fait payer un service qui est certes accompli avec son corps sur un corps, hein, d'accord. Mais premièrement, c'est pas propre à la prostitution, c'est le cas aussi des coiffeurs qui, par leur corps, agissent sur un autre corps. Bon, donc y a pas une différence fondamentale, en tout cas selon Ogien. Et puis, deuxièmement, c'est pas une vente, parce que le client, il n'est pas propriétaire de la prostituée quand la passe est finie. Hein. Au mieux, c'est une location. Alors, Ogien va aussi, comme Farro, invoquer la dimension altruiste, en tout cas morale de la prostitution, en disant qu'il est moralement défendable de mettre son corps au service d'autrui. Alors, je vais le citer pour que vous saisissiez le raisonnement. Il dit de même qu'il n'est pas injuste de priver une personne par la contrainte d'une partie de ses revenus pour la donner à d'autres qui en ont un besoin urgent. De même, il n'est pas injuste de la priver par la contrainte d'une partie de son corps pour la donner à ceux qui en ont un besoin urgent. Alors, il dit, bon, effectivement, ça peut paraître choquant à première vue ce que je viens de dire, mais si on y réfléchit bien, ce genre de taxation, il est admis en temps de guerre sans poser trop de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a besoin urgent pour sauver la patrie en danger, de solliciter le corps d'autrui, éventuellement en l'exposant à se faire tuer. Voilà, il y a un besoin supérieur qui exige qu'on use du corps d'autrui. Et donc, il y a des gens qui auraient besoin des services des prostituées, donc ça légitime qu'il y ait des prostituées. Et puis il dit, ce sont aussi des choses qu'on accepte en matière de don d'organes. Alors là, je crois qu'il mélange un peu différentes choses. Parce que le don d'organes, c'est précisément un don. Ça se fait par consentement. Alors que là, il dit bien privé par la contrainte d'une partie de son corps pour la donner à ceux qui en ont un besoin. Hein? Donc là, il y a une différence entre le don consenti et la contrainte. Hein? Effectivement, c'est ce qui se passe pendant les guerres. Hein? Son parallèle, il est assez stimulant. Effectivement, on ne trouve pas forcément à redire que des gens militaires de carrière mettent leur vie en danger en s'engageant dans l'armée. Ils le savent et peuvent pas se plaindre qu'ils n'ont pas été prévenus, quoi. La guerre, ça tue, oui, effectivement. Et militaire, c'est un métier où on prend le risque de se faire tuer. Mais on peut aussi remarquer que cette mise à disposition du corps de l'individu mise à disposition d'un État, par exemple, c'est un des ressorts de la critique de l'armée et de la guerre, hein, la critique pacifiste. Donc, bon, l'argument n'est pas aussi solide que ça. En tout cas, il y a déjà des critiques à l'égard de cet argument. Mais c'est pas ça l'argumentation centrale d'Augien. Elle tient surtout à sa conception de la liberté, ce qu'il appelle la liberté négative, c'est-à-dire une conception minimale de la liberté, enfin à la fois minimale et très vaste. C'est-à-dire que pour lui, être libre, c'est avant tout le fait de ne pas être soumis à la volonté d'autrui. Donc dans ces conditions, le champ de la liberté, on va dire, il est immense, et il se définit essentiellement au niveau de l'individu qui peut faire ce qu'il veut à partir du moment où ça relève de sa décision et où ça se fait sans nuire à autrui. Alors du coup, oui, on peut être libre de s'aliéner, même si ça paraît un oxymore, une contradiction dans les termes. Et donc on peut se livrer, décider, on peut être libre de se livrer à la prostitution. Donc il adopte un point de vue radicalement anti-kantien en affirmant qu'on est libre de faire ce qu'on veut de son corps, qu'on en est le propriétaire, le seul propriétaire, et donc qu'on peut le louer sur le marché à partir du moment où c'est une décision individuelle, et donc elle n'est pas soumise à la volonté d'autrui. Donc évidemment, toute forme de prostitution contrainte est exclue, disqualifiée dans cette perspective. Mais si c'est un libre choix, il n'y a aucune raison de s'y opposer. Alors, vous aurez sans doute reconnu dans cette manière de poser le débat un écho de la revendication féministe de la libre disposition de son corps. Et évidemment, c'est un des points de crispation du débat actuel, en disant, bon, oui, mais les féministes abolitionnistes disent, si on revendique la libre disposition de son corps, c'est certainement pas pour en faire usage sur le marché. Alors, à l'inverse, les porte-parole des prostituées vont se revendiquer du féminisme en plaidant qu'elles ne font rien d'autre que d'user de cette libre disposition de leur corps. Bon. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je vais livrer quelques éléments de sa compréhension à partir d'un registre différent, cette fois à partir de la réflexion juridique, réflexion de juristes, et principalement de juristes français. Alors, la première juriste que je me dois de citer, c'est Marcella Yacoub, dans un livre ancien de 2002, à l'époque où elle était une intellectuelle sérieuse et pas un personnage de foire qui surjoue la provocation en publicisant ses coucheries avec DSK et en s'exhibant chez Laurent Ruquier. Donc, à l'époque où elle était une juriste sérieuse, elle a publié un livre très stimulant, Le crime était presque sexuel et autres essais de casuistique juridique, où elle traite différents problèmes juridiques qui se posent au droit, problèmes touchant au sexe comme le mariage des impuissants, l'assistance médicale à la procréation, la définition du viol, etc. Donc il y a un chapitre qui est consacré à la prostitution qui est très intéressant, où elle dit que la condamnation de la prostitution, ça revient à restaurer une morale substantive dans un domaine supposé relever de la morale formelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La morale substantive, c'est celle qui prétend définir et imposer la bonne sexualité, qui définit ce que doit être la sexualité dans son contenu. Alors, on retrouve la morale substantive dans lorsque les conjoints adultères sont soumis à une peine parce que le droit impose la fidélité entre les époux. C'est aussi celle qui expose les homosexuels à la prison parce que seule l'hétérosexualité est légale. J'avais évoqué le cas d'Oscar Wilde, condamné au bagne parce qu'il est homosexuel. Alors évidemment, c'est une morale qui nous semble odieuse aujourd'hui dans notre société. Bon, Oscar Wilde, c'est à peine un peu plus d'un siècle, donc quand même, c'est des choses récentes, on va dire, qui restent fragiles. Et puis, c'est des choses qui paraissent relever d'autres sociétés, l'Arabie Saoudite, par exemple, ou l'Égypte, où les homosexuels peuvent être se font couper en deux parce que c'est interdit. Bon, alors donc c'est une morale qui nous semble dépassée parce que officiellement, nous vivons sous le règne de la morale formelle, qui à l'inverse se refuse de définir la bonne sexualité. Elle dit, bon, dans ce domaine-là, tout est permis, à condition que les gens soient consentants et que ça nuise pas à autrui. Donc, ce qui va intéresser cette morale, c'est pas le type de pratique sexuelle, c'est est-ce que ces pratiques sont consenties, hein. Les mêmes actes peuvent être acceptés, il n'y a rien à redire s'ils sont consentis, par contre, ils sont interdits s'il y a une contrainte de quelque forme que ce soit. Ou si un des individus qui est en cause n'a pas les moyens de consentir aux yeux de la loi. D'ailleurs, s'il est mineur, s'il est handicapé, un certain type de handicap, etc. Hein. Et puis évidemment, elle va aussi examiner si ça risque de causer des dommages à des tiers. Hein. Vous organisez une partouze à la sortie d'une école maternelle, entre vous, dans une chambre fermée, vous faites ce que vous voulez, à combien vous voulez, mais là, non. Hein, bon. Or, nous dit Marcela Yacoub, assimiler la prostitution à un esclavage ou à une violence sexiste, et par exemple, elle ne discute pas du cas, mais ça se pose aujourd'hui, pénaliser les clients des prostituées, c'est une entorse à la morale consensuelle. Parce que, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça annule cette dimension du consentement. La pénalisation des clients, hein, si on s'en tient à la proposition de loi qui est actuellement en discussion, la pénalisation des clients, elle ne vise pas que ceux des prostituées contraintes, mais elle vise les clients de toutes les prostituées, même celles qui sont autonomes, indépendantes, qui n'ont pas de Mac, etc. Cette pénalisation, elle ne vise pas non plus à prévenir les dommages éventuels infligés à des tiers, hein, puisque elle condamne ce qui se fait dans la discrétion, sans intervention d'un tiers. Donc, ça relève d'une morale substantive, parce que ça prétend, d'une part, détenir le sens de ses conduites. La prostitution est une violence sexiste, hein. Donc cette position, la pénalisation des clients, prétend dire le sens de la prostitution. Le sens, c'est une violence sexiste. Mais en plus, c'est une posture qui entend imposer cette signification à ceux et celles qui exercent ces pratiques. En l'occurrence, le client et la prostituée. Donc, c'est une morale qui exige autre chose que le consentement ou l'absence de dommage à un tiers pour rendre licite des rapports sexuels, mais aussi, c'est aussi une morale qui entend imposer aux individus ce que ces rapports doivent signifier pour eux. Hein? La prostituée et son client peuvent toujours dire qu'ils se sont mis d'accord sans aucun rapport de force, que chacun y trouve une satisfaction, qu'ils sont les partenaires égaux d'une négociation équitable. Ça ne vaut rien, c'est le droit qui leur impose et qui leur impose que ce qu'ils ont accompli, cette passe, c'est un acte de domination et de violence sexiste. Donc, dans cette posture-là, les individus sont dépossédés du sens de leur conduite. C'est le droit qui vient leur dire, le droit et puis ses instruments, la police et la justice, hein, si la loi est votée et appliquée, c'est la justice qui viendra, en condamnant le client, viendra lui dire, quel que soit ce que vous en pensez, quel que soit ce qu'a ressenti la prostituée, vous avez commis un acte de violence. Alors qu'à l'inverse, la morale formelle, qui est supposée avoir triomphé, la morale formelle, elle voudrait que si le client et la prostituée sont consentants mutuellement, il n'y a aucune raison que le droit intervienne dans leur transaction, il doit fermer les yeux, hein, il n'a rien à en dire. Hein. Donc, dans ce type de posture, il y a une réintroduction d'une morale qui était supposée dépassée, hein, on était supposé être sous le règne de la morale formelle, il y a des restes ou il y a des retours en force d'une morale substantive et qui est ce qu'elle interprète comme une régression. Hein. Comme une régression et également une position de domination, hein, que s'octroie abusivement le droit, alors pas seulement le droit, aussi les entrepreneurs de morale qui font campagne par exemple pour la pénalisation des clients. Hein. Et donc il y aurait une domination qui résiderait davantage dans le coup de force juridique que finalement que dans ce qui se passe éventuellement sur les trottoirs. Alors, c'est une critique, donc une position de surplomb du droit, hein, par rapport à l'expérience, à ce qu'en disent les personnes directement concernées. Alors ce surplomb, il va être aussi critiqué par deux juristes de Nanterre, Daniel Borillo et Daniel Lochac, dans un livre collectif qu'ils ont dirigé, qui est tout simplement intitulé « La liberté sexuelle ». Et ils vont s'intéresser notamment à un argument qui est fréquemment mobilisé dans les débats contemporains, qui est l'argument de l'atteinte à la dignité. C'est-à-dire que la prostitution serait une atteinte à la dignité des prostituées, mais aussi des femmes dans leur ensemble. Hein, et que cette atteinte à la dignité rendrait la prostitution insupportable dans notre société. Hein. Et d'ailleurs, juste en passant, dans le code pénal français, les délits et crimes qui relèvent du proxénétisme sont dans une section du code pénal qui concerne les atteintes à la dignité. Hein, donc on est bien dans ce registre juridique. Alors, Borillo et Lochac font remarquer que cet argument de l'atteinte à la dignité, il est mobilisé aujourd'hui chaque fois qu'il s'agit d'annuler le principe juridique de la capacité à consentir. Hein, chaque fois qu'il s'agit de déposséder les individus de la maîtrise de leur existence et du sens de leur existence. Alors, ils évoquent notamment, ils évoquent la prostitution, bien sûr, parce qu'elle se pose comme un cas important là-dedans, mais et ils évoquent d'autres situations, d'autres cas juridiques qui ont posé ce type de problème. Alors, il y a deux cas intéressants qu'ils retiennent. Notamment, il y a eu une, j'ai pas retrouvé les dates, mais il y a eu une décision de la Cour européenne des droits de l'homme s'agissant d'un groupe d'homosexuels sadomasochistes qui en outre avaient filmé leurs pratiques pour un usage strictement privé, comme souvenir. Alors, s'agissant de pratiques sadomasochistes, il y avait effectivement des coups, des supplices qui étaient infligés, qui peuvent choquer ceux qui ne sont pas sensibles à ce type de pratiques, mais ceux qui les avaient subis disaient non seulement ils étaient d'accord, ils étaient pleinement consentants, mais en plus c'est eux qui les avaient demandés et qu'ils en avaient retiré du plaisir. Mais la Cour a considéré que leur propre expérience, leur propre point de vue était nul, parce que le droit devait mettre une limite aux atteintes, même consenties, à sa propre dignité. Donc ces gens-là ont été poursuivis, voilà, pour des choses qui s'étaient faites mutuellement entre eux. Et puis, même débat en France, il y a une quinzaine d'années, lors de la célèbre affaire du lancer de nain. Parce que le nain en question était pleinement consentant pour se faire lancer dans des spectacles, il en faisait même son gagne-pain, hein, il s'exhibait dans des boîtes de nuit, et le jeu c'était le lancer le plus loin possible. Mais le Conseil d'État a estimé que c'était pas seulement lui qui était en question, mais que sa conduite portait atteinte à la dignité de l'ensemble des nains, voire de l'humanité, et donc que son spectacle devait être interdit, et donc il a été interdit. Et le nain s'est retrouvé au chômage. Alors, le problème dans ces différents cas, c'est que c'est le droit, donc l'État, qui décide de ce qui est la dignité de la personne, ou de la dignité de l'humanité dans son ensemble, et que le point de vue des intéressés ne vaut rien. Et donc, sur ce point, ces juristes, donc principalement Daniel Borillo et Daniel Lochac, considèrent que le droit court le risque, tout simplement, de devenir le bras armé de la morale. C'est-à-dire que les juges, finalement, se fassent, sous couvert de défense de la dignité, les porte-parole du sens commun ou de leur conviction à eux, que le sadomasochisme, c'est pas bien, donc une simple opinion personnelle devient, sous couvert de défense de la dignité, un principe juridique absolu. Hein. Et ils mettent aussi en garde devant un danger qui est quand même pas mineur, qui est que ce recours à la défense de la dignité pour interdire un certain nombre de conduites pourtant consenties, ça déroge à certains droits fondamentaux, comme précisément la libre disposition de son corps. Hein. Ça déroge à cette capacité à consentir, qui est un principe quand même juridique important, sous couvert de protection, Mais finalement, il s'agit, ça aussi, pour conséquence, de placer sous tutelle, sous une forme de tutelle, des personnes pourtant majeures, au prétexte que leur activité, par exemple la prostitution, prouverait par elle-même leur condition d'incapable. Hein. Donc ils assimilent cette logique à un paternalisme d'État. C'est-à-dire les gens sont considérés a priori parce que ils acceptent un certain nombre de pratiques comme témoignant de leur incapacité à consentir. Hein. Et donc, il faut, comme ils sont incapables de consentir, il faut les protéger. Et pour les protéger, on va leur interdire de se faire lancer dans des boîtes de nuit, de pratiquer la prostitution, etc. etc. Hein. Donc, l'idée d'un paternalisme d'État, et je n'exclus pas non plus qu'il puisse y avoir du paternalisme dans la manière dont certaines posent le débat actuel sur la prostitution en voulant faire le bonheur des prostituées à tout prix et malgré elles. Alors l'intérêt de ces réflexions de juristes, c'est qu'elles font référence à des principes généraux et donc qu'elles permettent de comprendre la logique générale de certains débats ou de certaines prises de position. Hein, je pense que cette question de la capacité à consentir, elle est importante. La question de la dignité, etc. Donc on voit des raisonnements, des mécanismes dans les raisonnements qui apparaissent sous le regard du droit et je trouve ça assez intéressant. Et dans le même temps, c'est aussi une limite de ce type de raisonnement parce que ça conduit à une vision un petit peu abstraite et désincarnée du monde de la prostitution, en l'occurrence, qui nous intéresse ce soir. Et puis ça néglige une nouvelle fois que la liberté de se prostituer ou de disposer de son corps pour un usage mercantile, ça reste surtout le fait des individus qui occupent des positions sociales défavorables et en premier lieu des femmes. Hein, Augien nous invoque un individu libre, mais justement il est libéré de toute détermination sociale, il est libéré de son contexte socio-économique d'existence et au bout d'un moment cette abstraction du raisonnement pose un petit peu problème. Alors du coup je vais finir en ne faisant que citer le texte d'Elisabeth Bernstein que j'avais signalé en début de première séance et qui donc reprenait cette formule « What's wrong with prostitution ?» cette question posée déjà par Patman et Overhaul, et elle a rajouté une autre question « What's right with sex work ?» Qu'est-ce qui, au contraire, serait positif dans le travail du sexe ? Alors, c'est un texte où Bernstein, donc, qui est une sociologue américaine, elle étudie certaines des positions que j'ai évoquées, celles de McKinnon dans un camp et Gail Rubin dans l'autre. Et puis, elle se limite pas à examiner ces positions, mais elle les confronte à la réalité de la prostitution qu'elle a étudiée sur le terrain, notamment en Californie. Et elle constate que cette réalité du monde de la prostitution, c'est une réalité très contrastée entre des prostituées de rue droguées au crack, souvent noires, de milieux pauvres, qui sont confrontés à une très grande violence, et puis, d'un autre côté, les escortes qui vendent de la girlfriend experience, qui sont diplômées, qui sont bien payées, et qui exercent sur un mode positif. Alors, c'est des contrastes que moi aussi j'ai repérés dans mes propres travaux sur la prostitution, et c'est des contrastes qui m'amènent aussi à penser que, comme Bernstein, que chacune des positions soit hostile à la prostitution ou favorable au travail du sexe, souvent partiellement raison, mais aussi partiellement tort dès lors qu'elle pénètre sur le terrain où c'est la position d'en face qui a partiellement raison. Hein? Donc il y a effectivement, et comme le dénoncent les abolitionnistes, des personnes qui exercent la prostitution sous la contrainte, pour qui il s'agit d'un asservissement auquel il faut mettre un terme. Et puis il y en a d'autres qui exercent cette activité de manière indépendante, qui la trouvent pas nécessairement réjouissante ou épanouissante, mais qui finalement y trouvent leur compte. Et il y a toujours du danger à rabattre soit sur un plan, soit sur l'autre, et à avoir des approches, uniformes et univoques. Alors une nouvelle fois, mon but dans ces quatre séances, c'était pas de vous livrer ma position et de vous y convertir, hein, c'était de donner des éléments qui plaident, selon moi, pour refuser ce type d'interprétation univoque et définitive, quelle qu'elle soit, pour plutôt envisager la prostitution dans sa complexité, dans son hétérogénéité et dans son ambiguïté constitutive. Mais il est vrai aussi que c'est un exercice qui est intellectuellement plus exigeant et plus fatigant, et que le débat politique actuel déteste souvent la complexité. Voilà, je vous remercie.